avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les tensions se multiplient à quelques heures de l'ouverture du sommet du G20 en Argentine cette année. Tensions chez le peuple argentin qui subit une crise économique sans précédent, sous la tutelle si l'on peut dire du FMI. Tensions aussi commerciales entre les États-Unis et la Chine, état des lieux à venir.
Et puis vous entendrez également Emmanuel Macron qui s'est déjà exprimé depuis Buenos Aires hier sur la politique intérieure de la France. Il estime que la baisse de pouvoir d'achat des Français est due au quinquennat précédent.
La défense du pouvoir d'achat, elle est portée par les Gilets jaunes depuis 14 jours maintenant. Des gilets jaunes dont les rangs pourraient grossir tant les revendications sont multiples. Le député insoumis François Ruffin l'espère, vous l'entendrez.
La colère aussi des intermittents du spectacle. Ils estiment avoir fait assez d'efforts. Sur leur assurance chômage, elle pourrait être renégociée.
Et puis dans ce journal, nous irons au Sénégal pour comprendre la colère des jeunes étrangers qui veulent étudier en France. Leurs frais d'inscription à l'université pourraient être multipliés par 15. Le sommet du G20 version 2018 ne dérogera pas à la règle. Organisé en Argentine, à Buenos Aires, bousculé de l'intérieur, il est aussi critiqué depuis l'extérieur. Le mouvement anti-G20, regroupant des dizaines d'associations sociales, politiques et économiques, ce mouvement est déjà organisé, il s'est mobilisé. Dans un pays en délicatesse sur le plan économique, le mot d'ordre FMI dehors s'ajoute à ceux qui critiquent le G20. Rappelons que l'Argentine vient de recevoir un prêt de 56 milliards d'euros de la part du Fonds monétaire international en échange de coupes budgétaires en interne. Les manifestants étaient donc dès hier pour l'arrivée de certains dirigeants étrangers dans les rues de la capitale argentine. Voilà ce qu'a constaté notre correspondante Caroline Vic.
Sur la place du Congrès flotte un énorme Donald Trump gonflable, symbole des politiques capitalistes et de la libéralisation économique que les anti-G20 condamnent. Pour Eleonora, venue à ce sommet des peuples, cette réunion internationale est une provocation.
Le G20 est exemplaire pour tous les pays d'Amérique latine et montre comment les pays développés se retrouvent dans un pays qu'ils considèrent comme appartenant au tiers-monde pour négocier des accords économiques qui continuent de piller notre pays et qui leur bénéficient, bien entendu.
En Argentine en particulier, la crise s'approfondit. Le retour du Fonds monétaire international et l'augmentation de la dette externe inquiètent. Leandro, historien et membre du collectif.
L'une des réunions clés que Macri va avoir ce week-end sera avec Christine Lagarde. Aujourd'hui, l'Argentine est un pays emblématique des méfaits du FMI, comme l'ont été la Grèce et d'autres pays, victimes des programmes d'austérité imposés, négociés et impulsés par le FMI et par le G20.
Cet après-midi, une marche est prévue pour s'opposer aux accords des grands contre les petits et sensibiliser le monde sur leurs conséquences dans le quotidien des Argentins.
Caroline Vic, à Buenos Aires, et déjà les autorités ont fait savoir qu'aucune violence ne serait tolérée un an après un G20 à Hambourg qui avait été marqué par des affrontements violents. Alors je vous le disais, ce G20 est aussi bousculé à l'intérieur. Le commerce international devrait être l'un des sujets de discorde. Les taxes aux importations se multiplient de toutes parts sous l'impulsion de la politique de Donald Trump aux États-Unis. Difficile dans ce cadre de plaider, comme cela se fait habituellement, pour le libre-échange et la coopération, Marie Viennot.
Jusqu'à aujourd'hui, le rejet du protectionnisme et l'appel à l'Organisation mondiale du commerce pour améliorer les échanges étaient des engagements classiques du G20. Mais la donne a changé. L'an dernier, au G20 de Hambourg, le président américain a réussi à imposer un texte ambigu sur le commerce. Les pays du G20 s'engageaient à lutter contre le protectionnisme, mais aussi contre les pratiques commerciales déloyales, comprenez celles de la Chine, et ils reconnaissaient le rôle des instruments légitimes de défense commerciale, autrement dit, les taxes. Les taxes, le président américain en a largement fait l'usage depuis le dernier G20, mais il n'est pas le seul. Les Chinois ont riposté, les Européens aussi, chacun a porté plainte contre l'autre devant l'OMC et au final, les pays du G20 ont adopté des mesures de restriction commerciale sur plus de 422 milliards d'euros. Cela représente à peine 3% des échanges mondiaux, mais la tendance est à l'escalade des tensions commerciales et au bras de fer lors des sommets. Il y a 10 jours, le sommet de l'APEC, les pays d'Asie-Pacifique, qui réunit notamment la Chine et les États-Unis, s'est conclu sans accord pour la première fois de son histoire. D'où les pronostics assez pessimistes pour ce sommet du G20 qui, 10 ans après sa création, pourrait aussi être celui du dialogue impossible.
Et il n'y aura pas de dialogue, c'est quasi certain, entre Donald Trump et Vladimir Poutine ces prochains jours. Tension là, non pas commerciale, mais diplomatique, après les dissensions entre l'Ukraine et la Russie en début de semaine au large de la Crimée. En revanche, Emmanuel Macron, lui, rencontrera bien le prince saoudien Mohamed bin Salman, le prince héritier saoudien, à l'occasion de ce sommet en Argentine. Le président français s'engage à lui parler de l'affaire Khashoggi, du nom du journaliste saoudien tué début octobre. Et depuis l'Argentine, Emmanuel Macron s'est aussi adressé dès hier à la communauté française sur place. Il a promis de ne jamais reculer sur ses réformes engagées et de ne pas céder à la démagogie, a-t-il dit. Réponse entre les lignes à la mobilisation des Gilets jaunes depuis 14 jours en France. Réponse aussi à François Hollande qui, devant des manifestants, avait rappelé hier qu'il avait donné un coup de pouce au SMIC lors de son quinquennat. Voici d'abord l'ancien président.
Ce qui a heurté, ce sont des décisions qui ont été prises depuis 18 mois. Supprimer l'ISF, baisser les aides au logement et une fiscalité sur le prix de l'énergie, changer par rapport à la trajectoire que mon gouvernement avait fixée dans une loi.
Et voilà la réponse d'Emmanuel Macron depuis Buenos Aires, cinglant lui aussi.
J'entends aussi souvent les voix qui parfois n'avaient pas même réussi à bouger les choses et qui sont sans doute plus à la racine de cette situation que nous vivons que le gouvernement qui n'est aux affaires que depuis 18 mois. Que voulez-vous ? Le cynisme fait partie de la vie politique.
Une preuve donc que le président français est préoccupé depuis l'étranger par les commentaires politiques à son égard. À Paris, c'est son premier ministre Édouard Philippe qui reste aux affaires. Il reçoit d'ailleurs cet après-midi à 14h une délégation de Gilets jaunes en présence du ministre de la Transition écologique François de Rugy. Hier déjà, ce sont des élus qui étaient à Matignon. Certains réclament un moratoire sur la hausse de la taxe carbone prévue au 1er janvier prochain. Une idée qui fait son chemin jusque dans les rangs de la majorité chez certains députés. Alors il s'agit là des revendications qui découlent de la hausse des taxes sur le carburant, mais certains tentent d'agréger plusieurs revendications autour du mouvement des Gilets jaunes. D'autres doléances, toujours contre la politique d'Emmanuel Macron. Le député de la France Insoumise, par exemple, François Ruffin, a rassemblé hier soir plusieurs centaines de personnes à Paris, place de la République. Il dit vouloir créer une passerelle entre les Gilets jaunes et les Parisiens qui s'étaient mobilisés, par exemple, au printemps 2016, lors du mouvement de contestation Nuit Debout. François Ruffin, hier soir, au micro d'Alexandra Dubucheron.
Ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est que la classe intermédiaire bascule avec les gens d'en bas plutôt que d'être solidaire avec les gens d'en haut. Et je crois que c'est ce qui est en train de prendre. À Paris, on a potentiellement des gens qui sont plus diplômés, plus éduqués, et en tout cas qui ont moins d'auto. Mais il faut faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas seulement l'auto et le gasoil qui se jouent. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est est-ce que demain, Macron pourra passer ses réformes sur la retraite, Macron pourra passer ses réformes sur le chômage, c'est est-ce qu'on arrive à dire non à l'oligarchie. Parce que évidemment, si on arrive à construire un point d'arrêt sur cette taxe sur le gasoil, à lui faire rendre l'ISF, c'est le quinquennat qui est arrêté. C'est demain toutes ces réformes qui deviennent impossibles. Ça, le gouvernement le sait. S'il ne recule pas, c'est parce qu'il sait ça. Et moi, je suis confiant qu'à Paris, comme ailleurs, comme dans toutes les villes de province, comme dans mes campagnes, eh bien, on veut dire aujourd'hui non à Macron, non à son projet où l'argent écrase les gens.
Après cette colère que l'on vient d'entendre, colère du député François Ruffin, cette question se pose. Le mouvement des Gilets jaunes est-il en train de devenir une auberge espagnole? Ce sera le thème du billet politique de Frédéric Seyss après ce journal dans 6 minutes. Encore un rebondissement dans l'affaire du lait contaminé. Des salmonelles ont été retrouvées dans des produits fabriqués par la tour numéro 2 de l'usine Lactalis de Cran, en Mayenne. Jusque-là, le groupe mayennais avait expliqué que des bactéries avaient été retrouvées autour de cette tour, mais pas dans les produits. Aujourd'hui donc, des documents de la Direction Générale de la Santé prouvent le contraire. Et puis dans le domaine sanitaire encore, de nouveaux rappels de médicaments à base de valsartan ont été annoncés hier par l'Agence de médicaments. Elle évoque la présence d'une substance classée comme probablement cancérogène. Près d'1,5 million de patients en France prennent ces médicaments utilisés en cas d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle ou après un infarctus. Cette mesure de précaution va entraîner des ruptures de stock, prévient déjà l'ANSM.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les intermittents du spectacle se mobilisent contre la renégociation de leur assurance chômage.
Oui, le patronat exige de nouveau 90 millions d'euros d'économies sur leur droit au chômage pour cette année et environ 200 millions d'euros d'économies d'ici 3 ans. Les intermittents refusent. Une réunion était prévue cette semaine à ce propos dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, mais les syndicats n'y sont pas allés. Et ce, à cause de la proposition du MEDEF, Cécile de Kervas-Doué.
L'argument du patronat, c'est de dire que les intermittents doivent participer à l'effort d'économie demandé par le gouvernement à l'UNEDIC et qui est chiffré au minimum à 1 milliard d'euros en moins pour les chômeurs sur 3 ans. Le gouvernement n'avait pas prévu spécifiquement de renégocier le régime de l'intermittence, puisqu'en 2016, un accord unanime du secteur avait déjà imposé 105 millions d'euros d'économies par an pour les intermittents. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de bilan chiffré indépendant de ces économies. Un comité d'experts devait l'évaluer, mais sa mise en place a traîné. Alors, pour les syndicats, pas question de renégocier sans ce bilan. Et la CGT, le syndicat majoritaire du secteur, va même plus loin. Pas question de demander des efforts aux chômeurs sous prétexte qu'ils sont en activité réduite. Denis Gravouille, responsable de la négociation pour la CGT Spectacle.
Au lieu de s'attaquer aux employeurs qui devraient embaucher de façon permanente et sans mettre à la charge de l'assurance chômage de la personne, eh ben on va baisser les droits du chômeur concerné parce que c'est de sa faute s'il ne cherche pas du boulot stable. On n'a eu qu'un projet du patronat, du MEDEF en tête, qui réclame en gros 200 millions d'économies d'ici 2020 et 90 tout de suite, quoi. Et donc c'est évidemment totalement inacceptable parce que ça veut dire la fin du régime. Le MEDEF veut la peau du régime des intermittents depuis au moins 1986. Il a réussi parfois à le raboter, mais il n'a jamais réussi à le supprimer. On compte bien ne jamais lui permettre d'y arriver.
La CGT appelle donc tous les intermittents à tenir des assemblées générales à Paris et en région afin que la grève soit massive le jour de la prochaine réunion de négociation sur les intermittents prévue le 11 décembre prochain.
Et avant cette grève, donc en décembre, une mobilisation dans la rue est prévue demain à l'appel de la CGT. Demain également, samedi, ce sont les étudiants qui manifesteront à l'appel de l'UNEF, principal syndicat de gauche, et de 14 autres associations. Ils s'insurgent contre la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers hors de l'Union européenne, des frais multipliés pour certains par 15. Un étudiant étranger en France sur 2 est africain. Alors ce matin, nous allons au Sénégal, où William de Lesseux, les étudiants, vous l'avez vu et entendu, les étudiants sont découragés.
Oui, au campus universitaire de Dakar, l'annonce ne passe pas. Pour une inscription en master, il faudra compter désormais 3 770 euros contre 243 actuellement. Une année de licence passe, elle, de 170 à 2 770 euros. La mesure apparaît brutale, en totale contradiction avec les moyens des familles sénégalaises. Farbanian et Fatoumata Bari sont étudiants en licence. Tous deux souhaitaient venir en France en 2019 pour leur master, mais avec la nouvelle mesure, ils ont renoncé à leur projet.
Non, là je n'y pense même pas. Je suis découragé. Je suis étonné aussi, c'est énorme.
Ça deviendra un rêve qui a été brisé pour un bon nombre d'étudiants. Maintenant, avec cette augmentation, je ne pense pas pouvoir m'en bénéficier. Mon niveau de vie ou bien ma situation économique ne va pas pouvoir me permettre de faire ça. Donc c'est mon cas et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Voilà.
Alors, William, le Premier ministre Édouard Philippe explique qu'il s'agit avant tout d'améliorer l'attractivité des facultés françaises et les conditions d'accueil.
Alors cet argument, les étudiants l'ont lu dans la presse locale, mais cela est loin de les convaincre. Il y a une autre raison, dit Stevenson, le président de l'amicale des étudiants du campus.
C'est un moyen pour tout simplement limiter l'arrivée des Africains en masse en France.
Le ministre de l'Éducation nationale ne partage pas l'amertume des candidats au départ. C'est aux étudiants sénégalais de s'adapter. La France est un pays souverain, ce sont ses mots. Mais pour eux, venir en France, c'est le signe d'un cursus universitaire accompli. Un diplôme français, par exemple, fait encore toute la différence sur un CV aujourd'hui pour les recruteurs dans les entreprises du pays, même si les diplômes sénégalais et français sont théoriquement équivalents.
William Delesseux depuis Dakar ce matin. Cette mesure-là, elle est votée à l'Assemblée nationale du moins. Cette nuit, les députés ont adopté une proposition de loi symbolique qui vise à interdire les violences éducatives ordinaires, comme les fessées ou les gifles envers les enfants. Le texte était porté par le groupe Modem. Comme tous les vendredis, nous en venons dans ce journal au grand reportage concocté par la rédaction. Et à deux jours de l'ouverture de la COP24 en Pologne, il est consacré aujourd'hui aux défis climatiques. Véronique Rebérotte s'est rendue en Guyane où le projet de la mine Montagne d'Or, soutenu par Emmanuel Macron, ce projet suscite une forte opposition. Cette mine à ciel ouvert s'étendrait sur 800 hectares au total déforestés en Amazonie française. Et ce qui inquiète sur place, c'est surtout l'utilisation de près de 10 tonnes de cyanure par jour au cœur de réserves naturelles. Véronique Rebérotte a rencontré à ce propos Éléonore Johannes, dit Cadi. Elle fait partie du collectif Hors de Question.
C'est l'histoire amérindienne, l'histoire autochtone, l'histoire des peuples premiers de Guyane qui sera détruite si jamais ce projet se met en place. Ils disent qu'ils vont préserver, mais comment peut-on préserver la nature avec 20 tonnes d'explosifs par jour et 10 tonnes de cyanure? Comment peut-on préserver l'environnement?
Si on décrit l'endroit, vous dites une réserve biologique absolue, ça veut dire quoi?
C'est préservé, c'est la réserve biologique Lucifer Dekou-Dekou, ce sont des collines, et la montagne d'or se trouve au milieu, donc c'est préservé, mais ils ont quand même obtenu la concession pour pouvoir exploiter cet or. Leur argument, c'est ça va créer de l'emploi, mais de l'emploi pour 12 ans, ce n'est pas un projet durable, alors que nous avons une telle biodiversité qu'on peut mettre en valeur. Mais de toutes les façons, si le promoteur continue son projet, le 7 décembre, il doit dire s'il continue son projet, quand les premiers camions vont arriver, ils nous trouveront. Donc on se prépare à l'affrontement.
Alors pour mieux comprendre ce projet et surtout entendre d'autres témoignages, rendez-vous à 17h sur France Culture pour ce grand reportage de Véronique Rebérotte intitulé « Montagne d'or en Guyane, bon ou mauvais filon ». Il est réalisé grâce à Annie Brault et sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Une perturbation pluvieuse va traverser une grande partie de la France métropolitaine aujourd'hui. Comptez ce matin 6 degrés à Besançon, 7 à Lyon, 10 degrés à Paris, Lille, Rennes, La Rochelle, 13 à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq.